Chapitre 11e. Pendant 8 jours, Madame de Gueldre attendit l'arrivée du courrier avec une angoisse fébrile, s'éveillant, la nuit où elle dormait, de grand matin, et allumant une bougie toutes les 10 minutes pour voir si l'heure du facteur approchait. Ne recevant rien à la première distribution, elle restait couchée, attendant la seconde, sans dormir, sans lire, le regard fixé sur un tableau, sur une fleur, ou sur un point de la tenture de 15-16 citrons, dont les raies mates et satinées finissaient par se brouiller devant ses yeux, s'allongeant ou se raccourcissant en dessins fantastiques et difformes. Et au milieu de ce chaos bizarre, Jean, toujours Jean, tranquille et satisfait, la regardant et lui répétant d'un air banalement reconnaissant, « Je n'oublierai jamais combien vous avez été gentil. » Ne voulant pas quitter la maison le matin, elle avait renoncé à ses promenades à cheval, et pour expliquer son refus de sortir, elle disait qu'elle se sentait souffrante. Quoiqu'il n'aimât guère sa femme, M. de Gueldre, quand il s'agissait des choses de santé, faisait strictement ce qu'il se croyait obligé de faire. Il appela le médecin et assista à sa visite. Comme cette visite eut lieu le matin, à l'heure de l'attente désespérée qui bouleversait si affreusement Liane, le docteur déclara qu'elle avait eu une très forte fièvre et la questionna sur ce qu'elle éprouvait. Mise au pied du mur, obligée d'inventer à l'improviste une maladie qui ne lui fit pas garder la chambre, elle raconta que chaque matin elle ressentait dans le bras gauche une douleur qui, venant précisément à l'heure de sa promenade, l'empêchait de monter à cheval. Elle n'en avait pas parlé pour qu'on ne lui fît pas prendre de précautions. « Mais, demanda le docteur, vous souffrez donc beaucoup ?» Elle répondit, gênée de simuler une maladie qu'elle n'avait pas, « Je souffre assez. » « Docteur, fit M. de Gueldre, elle n'est pas douillette, vous savez. » « Effectivement, car il faut que la crise soit forte pour amener une fièvre aussi violente. Le mieux pour éviter cette fièvre qui affaiblit inutilement Madame la Marquise serait de faire, un peu avant l'heure où commence la douleur, une piqûre de morphine. » Liane voulut protester. La morphine lui faisait horreur. Mais le docteur, qui n'avait pas vu son mouvement, continua. « Ce sera d'autant plus facile que Madame la Marquise sait très bien faire les piqûres. Je me souviens que c'était elle qui les faisait à votre cocher quand je les soignais, et qu'elle est des femmes auxquelles on peut confier de la morphine sans craindre qu'elles en abusent. » Madame de Gueldre se tut et laissa écrire l'ordonnance. À quoi bon discuter? Elle ne ferait pas ce qu'on lui prescrivait, voilà tout. Certes, elle ne le ferait pas. Les morphines la dégoûtaient infiniment plus que les ivrognes. Et jamais, pour de réelles souffrances, elle n'avait laissé sur elle ce remède qu'on dit être si délicieux. Elle se connaissait bien et se savait incapable de résister à aucun entraînement, si cet entraînement ne faisait tort qu'à elle-même. Son seul frein, c'était la crainte de nuire aux autres, et jamais, quelque désir passionné qu'elle en pût avoir, elle n'eût commis une action déloyale ou mauvaise. Mais ici, elle était seule en jeu. La morphine lui répugnait et lui faisait peur, comme une chose à la fois malpropre et séduisante, et certaine de ne pas lutter si la séduction l'emportait sur la répugnance, elle n'avait pas voulu tenter l'épreuve. Tandis qu'elle réfléchissait en regardant son mari qui se chauffait, adossé à la cheminée, et en écoutant crier la plume du docteur, la femme de chambre était entrée, apportant les lettres, et Liane, découragée de ne pas trouver celle qu'elle cherchait, était restée toute glacée et stupide, n'ayant presque plus conscience de ce qui se passait autour d'elle. Chaque jour, à la fièvre de l'attente, succédait un abattement sombre et lourd. À peine entendit-elle le docteur qui expliquait « Madame la marquise, vous voudrez bien serrer la fiole de morphine, n'est-ce pas? J'en fais mettre une assez forte dose, parce que le pharmacien n'en donnerait pas sans une nouvelle ordonnance. Ceci devra vous durer 15 jours, à une piqûre par jour. Je suis d'ailleurs tranquille, je sais que vous n'en abuserez pas. » La regardant, il murmura, étonné de voir que la tache rose des pommettes avait disparu. « Tiens, voyons donc le pouls. » Et prenant le poignet de Liane, il continua, se tournant vers M. de Gueldre qui se chauffait toujours. « Il n'y a plus du tout de fièvre, et le pouls est très faible, c'est singulier. » Dans la journée, la marquise, non plus seulement malheureuse, mais inquiète d'être sans nouvelles de Jean, se décida à lui écrire une lettre presque banale qui, sans lui reprocher son oubli, disait seulement « Je n'ai rien reçu de vous. » Comme le petit mot envoyé de Kildare le matin du départ, cette lettre resta sans réponse. Alors, Liane, désespérée, n'eut presque plus la force de cacher son chagrin, et changea en quelques jours d'une effrayante façon. Trois personnes s'aperçurent de ce changement, M. de Mons, Mme de Chavannes et Fauché, dont les taquineries et les boutades faisaient encore sourire la marquise, mais n'amenaient plus les accès de gaieté qu'elles amenaient auparavant. Tous les jours, lorsqu'elle sortait, après avoir attendu le courrier de 3 heures, elle se faisait conduire à Saint-Roch afin d'aller au bois. À Saint-Philippe, elle risquait de rencontrer ses amis et ça l'ennuyait. Et puis, elle aimait cette grande église sombre, où elle se sentait seule et tranquille au milieu des dévotes et des mendiants qui ne la connaissaient pas. Dès qu'elle arrivait, se dirigeant vers la chapelle, où, depuis son retour, elle venait brûler un cierge chaque jour, la petite vieille marchande accourait joyeusement au-devant d'elle, demandant d'une voix flûtée « Un cierge de 5 francs, n'est-ce pas, madame ?» Et Madame de Gueldre restait là, debout pendant quelques minutes, priant de toute son âme meurtrie. Elle ne criait plus à Dieu comme à Sainte-Anne d'Auray 2 mois plus tôt « Mon Dieu, faites qu'il m'aime !» Elle lui criait seulement « Mon Dieu, faites qu'il m'écrive !» Pas un instant, elle ne supposait qu'elle pût offenser Dieu en lui parlant de son amour. Très bretonne au fond, c'est-à-dire très simple d'âme, Liane s'était fait du Dieu auquel elle croyait passionnément une idée primitive et absolue que l'instruction n'avait jamais pu déformer. Toujours on lui représentait Dieu comme un maître, alors qu'il lui plaisait à elle de voir en lui un ami. Dieu, disait-on, jugeait sévèrement les fautes de ses créatures. Liane, ayant cru remarquer, dès sa toute petite enfance, que les sévères sont des sots et des mesquins, se figurait un Dieu superbe et doux, indulgent aux faibles par cette raison même qu'il était exempt de toute faiblesse. Elle était convaincue que la parole, les écrits et la peinture concouraient pour donner une idée absolument fausse de Dieu. Pourquoi les peintres anciens représentaient-ils Dieu le Père, et cela dans un temps où les types étaient plus beaux qu'aujourd'hui, avec la figure et l'attitude d'un vieux figurant d'opéra comique? Pourquoi, anciens et modernes, s'acharnaient-ils à faire du Christ une sorte d'être bizarre et indécis, au corps fléchi, à la barbe rare, alors que cette admirable figure s'impose à l'esprit sous les traits d'un homme beau, solide et fort comme tous les êtres vraiment grands et bons et résignés? Et chaque fois qu'en Allemagne et en France elle avait, dans les musées ou les salons, regarder des tableaux représentant le Christ, que ce fût le Christ de convention d'un vrai peintre ou le Christ révolté de M. de Mackenzie, elle s'était dit, exprimant sa pensée dans la forme familière qui lui était naturelle, « Ça, le Christ, jamais de la vie !» Au lieu de dire « Mon Dieu, pardonnez-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ce type-là aurait craché au nez de ses bourreaux. Tout ça est petit, étriqué, sans souffle, et surtout sans foi. » Ce qui peignait autrefois faisait des tableaux religieux ou mythologiques parce que c'était la commande qui donnait, comme aujourd'hui ils font des petites femmes dans un tub ou un moulin rouge, parce que c'est demandé. La vérité, c'est que si le bon Dieu est satisfait de ses portraits, il n'est pas difficile. C'est cette susceptibilité de l'œil qui dirigeait aussi la marquise dans ses moindres actes religieux. Quand elle avait quelque chose à demander à Dieu, elle ne faisait pas dire de messe, elle brûlait des cierges. Elle s'imaginait que cette jolie colonne blanche, élégante comme une tige de lys, qui se consumait silencieusement en élevant vers le ciel sa flamme claire, plaisait à Dieu plus que des paroles marmottées au galop par un prêtre, assistée d'un enfant qui se mouche dans ses doigts entre les répons. Que de fois aussi elle s'était sentie malgré elle éloignée de la religion par ses représentants. Non pas jamais par les humbles et les simples prêtres, mais par les prêtres mondains, qui s'occupent de diriger les salons beaucoup plus que les consciences. Souvent elle avait éprouvé, en entrant chez Dieu, la sensation qu'elle éprouvait en entrant chez des amis, dont les relations lui déplaisaient, une sorte de gêne, de contrainte pénible, de désir de voir partir tout ce monde-là, et de rester enfin en tête-à-tête avec ceux qu'on vient voir. Elle adorait l'église où il n'y a personne, où le moindre bruissement vibre sous les voûtes, où se voyant seul, on se sent tout près de quelqu'un. Et longtemps elle restait là, immobile, priant de tout son cœur, priant, c'est-à-dire confiant à Dieu toutes ses pensées, et le suppliant de réaliser ses vœux, car elle ne priait pas à proprement parler. Encore une chose qui la stupéfiait, la prière, comme on la comprend ordinairement. Les gens qui mâchonnent on ne sait quoi, en remuant les lèvres, lui étaient déplaisants à regarder. Elle s'étonnait aussi qu'on lût des prières dans des livres. Il lui semblait que la prière devait être spontanée, et que si mal tournée qu'elle pût être, il valait mieux qu'elle fût inédite. Ce jour-là, en sortant de Saint-Roch, M. de Gueldre pensa « Il est bien tard pour aller au bois. Et puis, Hélène doit m'en vouloir. Depuis 3 jours, je n'ai pas été la voir. » Et montant en voiture, elle dit au cocher « Chez Madame de Chavannes. »